made out of muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. He loads 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, contre-histoire retourne en Afrique. C'est une histoire qui pue le cambouis, une histoire de femme africaine qui ne passe pas ses journées à aller chercher de l'eau et à attendre que son mari rentre à la maison. Parce que c'est comme ça que vous nous imaginez, n'est-ce pas? Ça va pas, non? Ce soir-là, Tandive s'était vexé. Nous discutions dans une pizza bondée de la banlieue industrielle de Johannesburg. Je venais de lui dire qu'elle n'était pas comme les autres. Elle m'avait fixé de ses grands yeux noirs. Le monde est plein de belles choses et j'aurais pu passer ma vie sans les connaître. Elle avait continué. Il m'arrive de pleurer dans mon camion parce que je me sens seule. Mais il n'y a pas de liberté sans solitude. Puis, entre deux bouchées de pizza, elle m'avait lancé. Un esprit libre n'est jamais tout à fait en paix. Je n'étais pas sûre d'avoir compris. Mais elle n'a plus rien dit. Des enfants agités criaient. Les clients se dépêchaient de rentrer chez eux avant la tombée de la nuit. Sandy V aussi devait repartir sur les routes d'Afrique australe qu'elle bat depuis 10 ans au volant de son 40 tonnes, un bloc de métal posé sur 20 roues, long de 20 mètres et couvert de bâches de plastique rouge. Un jour, tu viendras avec moi, tu comprendras. Dans le sud du continent, elles sont 3 femmes, chauffeurs routiers. Sandy V, 1m52, 50 kg, a été la première à ouvrir la transafricaine, la route du Congo RDC, la plus longue, la plus difficile, 7000 km, aller-retour, 5 semaines de voyage. Partout où elle passe, les gens se retournent et la montrent du doigt. Certains l'ont menacée. Jamais femme ne poserait roue sur les routes. Elle paierait un jour pour son insolence. Gamine, Sandy V, ne jouait pas à la poupée. Jamais. Elle préférait l'athlétisme. Elle parlait trop pour une fille et rêvait de partir à l'aventure, comme les hommes. À 31 ans, elle n'a qu'une angoisse, ne plus parvenir à contrôler ce temps qui passe trop vite. T'as vu ? J'ai encore l'air jeune, dit-elle souvent en caressant ses longues nattes. Malgré son regard dur, malgré ses traits fatigués, c'est vrai qu'elle a l'air jeune. Sa taille est mince, ses bras qui sanglent et désanglent le chargement qui change les immenses roues crevées. Ses bras sont frêles. Thank you. De son enfance à Ndola, la capitale de la ceinture de cuivre en Zambie, elle a gardé en tête les images des norias de camions chargeant le minerai pour l'emporter ailleurs, au-delà de ces hauts terrils qui lui barraient l'horizon. Elle a voulu rouler et n'a rien entendu d'autre. Kilomètre 500, 9e heure de route. « Dis, tu dors pas? Il faut me tenir compagnie. Parle-moi, raconte-moi l'Europe. Il y a des guerres? Tu crois que les gens sont plus heureux là-bas ?» L'autoroute sud-africaine est lisse, droite. Des voitures doublent, le soleil se couche. Les feux orangés des lampadaires frappent l'asphalte à un rythme cadencé, hypnotique. Sandivé s'accroche à l'horizon. L'air est frais. Elle est fatiguée. Rentrée la veille de son précédent périple, elle s'est endormie habillée sur le canapé de sa sœur, une amie qui élève sa fille de 10 ans dans une banlieue de Johannesburg. Au petit matin, le camion était chargé. Il fallait repartir. Elle n'a pas pu assister à la victoire de sa fille au concours de beauté du supermarché du coin. En colère, la petite Ligisha, qui rêve d'être pilote d'avion, lui a dit que chauffeur routier, c'était vraiment trop nul. « Tu crois que ça coûte cher, les études de pilote ?» demande Sandivé. « Je mets de l'argent de côté. Elle passe le bac dans 10 ans. Ça laisse un peu de temps. » À l'intérieur de la cabine, 2 larges sièges et 2 minuscules couchettes. La camionneuse a rangé sa valise bleue et sa petite trousse de toilette. Elle a aussi entassé sacs de pommes de terre, œufs, casseroles, assiettes. La route est longue. Il faut tout prévoir. Elle doit acheminer 28 tonnes de chaux jusqu'à une mine congolaise au cœur de l'Afrique et ramener 20 tonnes de cobalt en Afrique du Sud, au port de Durban, sur l'océan Indien. Le camion est son refuge, un ami. Elle lui parle pour passer le temps, le dispute quand il n'avance pas assez vite, lui confie tous ses secrets. « Attends, si tu veux, on peut chanter !» Sandivé attrape un CD de gospel. La musique emplit le camion. Elle se revoit à l'église, dans la chorale, avec sa sœur, quand elle chantait « Ne sois pas surpris, peu importe ce que tu trouveras, sous ses ailes d'amour, Dieu prendra soin de toi. Chaque jour, sur le chemin, Dieu sait tout ce dont tu auras besoin. » La musique s'interrompt. « Tu vois les petites lumières au fond? C'est une station-service. On va s'y arrêter pour dormir. » Les derniers kilomètres sont longs, douloureux. Clignotant, parking, il est 1 heure du matin. Il faut repartir dans 2 heures pour arriver au plus tôt à la frontière du Zimbabwe. On ne met pas de réveil? Pas la peine, j'ai l'habitude. Kilomètre 700, frontière du Zimbabwe. Le camion entre à l'aube dans la petite ville de Musina. Les rues sont silencieuses, les rideaux encore baissés. Quelques fermiers conduisent des pick-up chargés d'ouvriers. Longtemps, des milliers de Zimbabwéens, étranglés dans les pénuries, venaient se procurer ici du pain. Des milliers de Zimbabwéens, étranglés par les pénuries, venaient se procurer ici du pain, du sucre, de la farine ou de l'huile pour alimenter le marché noir. Le pays va mieux et les Zimbabwéens franchissent maintenant la frontière pour se fournir à bas prix en baskets, meubles, en contreplaqué, matelas, produits de beauté ou batteries de voitures. Dans la ville aux bonnes affaires, Tandivé cherche du carrelage et des éviers en inox pour son futur restaurant. D'ici 3 ou 4 ans, elle espère avoir économisé pour abandonner la route. « Couleur crème ou blanc cassé ?» demande-t-elle en brandissant 2 plaques de carrelage dénichées dans les méandres d'un magasin de bricolage. « Son restaurant sera classe, pas un de ces restos de routiers dégueulasses, pour assurer l'avenir de sa fille. On est en Afrique. Demain, tout peut arriver. » Un immense parking routier, protégé par des barbelés, est installé à la sortie de Mousina. Chaque société de transport a sa propre aire, mais les chauffeurs se retrouvent souvent dans un petit restaurant où ils regardent le foot à la télé et cuisent des merguez. Ils s'approvisionnent dans une obscure petite épicerie tenue par un Pakistanais. En vrac sur les rayons, de l'anti-moustique, des bouteilles de gaz, des poulets congelés, des petites culottes en dentelle, des sacs à main en faux cuir, des copies de chaussures à talons. Sandivé s'amuse. Ce sont des cadeaux pour les petites amies du parking. Elles sont de plus en plus difficiles à contenter. Le Zimbabwe est à 2 kilomètres. Il fait chaud. La poussière s'envole en tourbillon. Ils sont 200 camionneurs sur le parking à attendre leurs papiers. Plusieurs se sont installés dans le creux des troncs de baobab pour faire une sieste. Comme tout le monde, Tandiwe attend. Elle doit faire enregistrer son chargement par les douanes sud-africaines et zimbabwéennes, faire tamponner son visa, payer la taxe environnement et l'assurance zimbabwéenne qui n'assure pas, faire peser et scanner le camion et enfin signer un faux certificat médical. Des chauffeurs sont là depuis 5 jours. Au bureau des douanes, les agents se targuent d'accélérer, par galanterie, le dossier des femmes. « Ils ont pitié d'elles, » disent-ils. Tandiwe se moque. « Pitié. Et quoi encore? Tu veux pas dire que je t'ai filé 200 rands pour accélérer le mouvement ?» Profil bas. On lui promet qu'elle pourra partir le lendemain. Elle est pressée. Comme tous les chauffeurs, elle est payée au voyage et touche une prime de 6 000 rands, c'est-à-dire à peu près 600 euros, pour le Congo. Le double des autres destinations. Ses collègues vont la détester de la voir partir avant eux. Tant pis. Le mois dernier, l'un d'eux lui a volé de l'essence pour qu'elle tombe en panne et soit retardée. Ce jour-là, elle a pleuré. De retour des douanes, elle salue Mr. Justice, un collègue et ami, un ancien de 42 ans, au ventre arrondi, qui rêve de prendre sa retraite dans sa ferme pour profiter de la vie en allant chercher des œufs le matin. Elle lui refourgue quelques cartons de carrelage et rencontre pour la première fois Madame Justice. Madame Justice habite à Mutare, la grande ville de l'Est zimbabwéen. Quand elle le peut, elle embarque dans un bus pour la frontière sud-africaine où elle retrouve son homme. Elle fait le chemin de retour dans la cabine du camion. En tout, quelques milliers de kilomètres. C'est un peu compliqué, concède-t-elle. Mais c'est le seul moyen de faire prospérer notre amour.
I born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you know, 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Mr. Chance se joint à la discussion. Il vient du Malawi et n'a pas vu son épouse depuis 9 mois. Lui aussi a essayé de voyager avec sa femme. Mais ça a été la crise. Madame Chance est très jalouse. Elle est allée demander à toutes les filles des parkings si elles avaient déjà eu affaire à moi. Je me cachais dans ma cabine. Hilarité générale. Un chauffeur le taquine. Et alors, Madame Chance, elle a ramassé des preuves ? Monsieur Chance est un grand romantique. Admirateur de Céline Dion, il a choisi la chanson du Titanic comme sonnerie de portable. Il sonne toutes les heures. Madame Chance veut être rassurée. Tandive reçoit un message de son mari, Patrick, chauffeur comme elle. Son pseudo, My Love, s'affiche sur l'écran du téléphone rose fluo. « Tu me manques. J'ai envie d'avoir des enfants de toi, » écrit-il. Elle lui répond qu'elle vient d'acheter du carrelage et des sacs de ciment pour le restaurant. « Après tout, il sait qui il a épousé, » dit-elle. Le couple se suit parfois, chacun au volant de son camion jusqu'au Congo. Elle fait la cuisine sur un but à gaz. Il l'aide avec le chargement. Là, Patrick est bloqué en Zambie depuis plus d'une semaine, une histoire de levier de vitesse. Si elle se dépêche, ils pourront se croiser. Kilomètre 1000, Zimbabwe. Les campagnes assoiffées et silencieuses du pays de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, défilent à toute vitesse. Pas le temps de s'arrêter, pas le droit non plus. Le Zimbabwe, toujours en crise et rongé par la pauvreté, est dangereux. Au sud, les chauffeurs sont attaqués par des gangs qui les dévalisent. Plusieurs ont été tués pour leur chargement. Au nord, les lions affamés sont redoutés. Il faut rouler, avancer au plus vite, traverser le pays comme si c'était un no man's land. Nous roulons depuis 16 heures, quand le camion se met à tressauter et à souffler. Il ralentit, semble refuser d'avancer. Sandivé écrase l'accélérateur, frappe le volant, s'énerve. « Tu veux pas que j'aille voir mon mari, hein, c'est ça ?» De l'air s'est introduit dans le moteur. Rien à faire. Il est près de minuit. Impossible de s'arrêter. Les airs de pique-nique sont des coupes-gorges. Le camion se traîne. La route, encombrée par le trafic, se fait de plus en plus étroite. Les rétroviseurs se frôlent. « Dis, Sandivé, tu n'as pas peur ?»« Jamais. Il ne faut jamais avoir peur, sinon tu n'avances plus. » Kilomètre 1700, frontière de la Zambie. Depuis la ville de Mousina, Sandivé a conduit 30 heures sans relâche. En silence, rivée au volant, absorbée par les toussotements du camion. Elle est épuisée, ne consent qu'à un bref arrêt forcé dans les montagnes au lion, au bord du lac Kariba, près de la frontière. Il faut laisser s'échapper l'air du moteur. Le soleil est au zénith, la chaleur tambourine à la fenêtre. Des touristes européens en bus tentent d'apercevoir des animaux sauvages. Ah, ils reviennent. C'est bon signe. À l'horizon, en bas de la montagne, sertie de baobab, 75 camions sont alignés en enfilade. De l'autre côté des eaux du Zambèze, la Zambie. D'un coup, tout s'accélère. Fébrile, Sandivé sort de la route défoncée pour remonter par le bas-côté la file des camions. Faut que j'aille voir mon mari. Les poids lourds, en train de griller au soleil, sont dépassés un à un. « Désolé, faut que j'aille voir mon mari, il m'attend. » Arrivée au poste de douane, elle glisse discrètement un billet au responsable, puis traverse le majestueux pont frontière. Elle est sortie du Zimbabwe, mais n'est pas encore en Zambie. Elle s'arrête. Il faut faire vite. D'un coup de hanche, le tissu africain qu'elle portait est remplacé par un jean moulant. Sandivé s'inspecte dans les larges rétroviseurs du camion. Ses grands yeux ont perdu leur éclat. Qu'importe, elle boude d'impatience. On ne va pas voir Patrick longtemps, mais tu comprendras. Il en vaut la peine. Son mari l'attend, à 200 kilomètres de là, près des chutes Victoria. Le temps d'obtenir les papiers de la douane, elle a une journée disponible. Elle abandonne son camion. Un ami la prend en stop. Assise dans la remorque du pick-up, elle se laisse conduire. Le véhicule tressaute sur les nids de poules béants. Le conducteur jure « Bon Dieu, mais c'est quoi ce pays ?» Sandivé est heureuse, elle rit. Il n'est jamais allé au Congo, lui. Sinon, il serait content d'être zambien. Patrick l'étreint. Tu m'as manqué. Casquette et t-shirt de l'équipe de football du Zimbabwe, c'est un calme. Ils se sont rencontrés il y a 10 ans, lorsqu'elle était en formation. Patrick lui a appris le métier, même si elle ne l'avouera jamais. Elle n'aime pas écouter les hommes. Mais là, elle n'avait pas le choix. Enceinte, Tandivé venait de quitter son premier mari. Il ne me respectait pas. Elle venait aussi d'abandonner des études de marketing. Manque d'argent, envie d'être indépendante, elle avait postulé à un emploi de routier pour une entreprise de transport en Zambie. Le boss, un blanc, est resté perplexe en la voyant débouler. « Vous ne pourrez jamais changer une roue !» Après une semaine d'entraînement acharné, elle était revenue faire ses preuves. Conquis par sa volonté, le boss l'a embauchée. Séduit. « Aujourd'hui, elle conduit mieux que les hommes. Ça les rend fous !» Patrick l'a épousée. Ils se sont mariés en 2007, selon la tradition. Sandivé a accepté son futur mari, allongé à terre en femme soumise et dotée. « Parce que ça se fait comme ça, » dit-elle. Ils n'ont invité aucun chauffeur. Elle a refusé. Les hommes sont de vrais commères, pire que des vieilles concierges enceintes. Le téléphone rose sonne. Un ami de la société de transport de Johannesburg veut la prévenir. Par vengeance, un collègue lui aurait jeté un mauvais sort. De retour du dernier voyage au Congo, l'homme était ivre. Et Tandivé l'a laissée seule, enfreignant les règles de sécurité. Les camions chargés de cobalt circulent en convoi afin de limiter les risques de braquage. Elle met le haut-parleur. « Je veux juste te mettre en garde, Sandy. Ce mec vient du Malawi. C'est le pays de la magie noire. Il rigole pas. Il est furieux. Il dit qu'il a failli se faire virer à cause de toi. Fais attention !» Elle raccroche, se tourne vers son mari. Silence dans la cabine. « Arrête, tu vas pas croire à ces bêtises. Tout ça, c'est du vent. » Patrick est inquiet. Le rendez-vous est gâché. Il lui fait promettre de lire la Bible tous les soirs. Il s'enlace rapidement. Les phares rouges de son camion s'éloignent dans la nuit. Ils se recroiseront peut-être dans un mois. Kilomètre 2350, nord de la Zambie. Il a fallu 5 jours pour traverser la Zambie, et faire enfin réparer le camion. Nous sommes à Ndola, la ville d'origine de Tandive. Les mécaniciens vident le réservoir. Un caillou minuscule est à l'origine de la baisse de régime. Si ça se trouve, quelqu'un l'a glissé exprès pour me ralentir, soupçonne-t-elle. Elle a grandi ici, dans une ancienne cité ouvrière pour les employés des mines. Sa mère, Jeanne, s'y est installée en 1991 alors qu'elle se séparait de son mari. Sandivé avait 11 ans et déjà elle apprenait à ignorer les candiratons des voisins. Elle propose d'aller la saluer, embarque un poulet vivant, quelques œufs et une bouteille de vin rouge. La grande maison est poussiéreuse. Des pigeons ont fait leur nid dans les conduits d'aération. Ils apportent un peu de vie. Sur le buffet de la salle à manger, couvert d'un apron en dentelle, Jeanne a gardé sa photo de mariage. Les jeunes époux ont une coupe afro des années 70 et se regardent droit dans les yeux comme deux boxeurs avant le combat. Le père de Sandivé était un homme bon, mais il aimait trop les femmes. Il a eu 17 enfants, peut-être même plus, ajoute Tandivé. On en a découvert deux autres le jour de son enterrement. Son père a choisi son prénom. Elle n'a jamais compris son choix. Sandivé veut dire celle que l'on aime. Divorcée, Dieu n'autorise pas la polygamie. Jeanne a élevé seule ses 6 enfants. Infirmière, elle partait après son travail vendre des légumes et des vêtements d'occasion au marché. Ses enfants sont allés à l'école chez les Blancs. 2 sont morts de la nouvelle maladie, le sida. La plus jeune a succombé sous les coups de son mari. « Dans le quartier, on me prend pour une asociale, » dit la vieille dame, qui n'a aucune envie de rencontrer un autre homme. Elle part dans un grand éclat de rire. « Je n'en rêve même pas !» Kilomètre 2400. La route est barrée par un contrôle. Main dans les poches, képi sur la tête, un policier zambien s'approche, se hisse pesamment sur le marchepied, lève les yeux sur Tandivé tout en lançant son habituel « Good morning !» et s'interrompt aussitôt, interloqué. « Mais vous êtes une femme ?» Il se retourne, interpelle un collègue. « Hé, viens voir ça, c'est une femme qui conduit !» Tandivé s'énerve. « T'as jamais vu de femme ?»«
Si, et si, mais t'es si petite dans ce gros camion ?»
Et vous allez où comme ça?
Au Congo.
En République démocratique du Congo. Mais t'as pas peur?
Écoute ça, elle va au Congo.
Et Muzungu aussi.
Muzungu, c'est blanche.
Eh oui, la blanche aussi.
T'as fini?
On peut y aller?
Oui,
allez-y.
Bonne route, femme.
Le policier n'a pas regardé les papiers du véhicule.
Tandivé remonte sa vitre crasseuse et redémarre brusquement. Imbécile.
Kilomètre 2500, frontière du Congo. Impressionnant, n'est-ce pas? Le poste s'appelle Kasumba Lesa. Des géraniums ont été plantés autour du bâtiment neuf des douanes. 700 camions attendent de passer au Congo. Autant patientent dans l'autre sens. Alignés au pied des poids lourds, des bars obscurs avalent des clients. Des boîtes de nuit crachent des tubes américains. Des restaurants exhalent leurs odeurs de graisse. À chaque porte, des filles en mini-jupe font le guet. Kasumba Lesa est un carrefour, une tour de Babel. Les camions viennent d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Malawi, de Tanzanie, du Kenya. Les chauffeurs sont zambiens, éthiopiens, somaliens, congolais. Des remorques portent l'inscription « In God we trust » et d'autres « In Allah we trust ». De la musique arabe sort d'une cabine. Un conducteur à dreadlocks chante « No woman, no cry ». Un autre tente de capter un programme en swahili à la radio. Des Maasai, armés d'une lance, se promènent, oreilles percées, en sandales et longues tuniques rouges. Ils ont abandonné leur village et leur haut plateau verdoyant à 3000 km de là pour venir vendre leur médecine traditionnelle. Mr. Chance est là et nous attend. Sandive s'enfonce dans l'entrelacs de camions. Une forte odeur d'acide et d'œufs pourris, mêlés, prend à la gorge. « Hydroxyde de cobalt », explique-t-elle, « le minerai tiré des mines du Congo ». Excepté une poignée de camions tanzaniens chargés de margarine, d'huile et de sucre, les poids lourds transportent le matériel destiné aux mines, des piliers de soutien, des parties de tractopelles, des cargaisons d'acide sulfurique, des sacs de chaux. À leur retour du Katanga, la province minière du Congo, ils rapporteront du cuivre et du cobalt. 180 véhicules chargés de minerais franchissent chaque jour le poste. La cargaison de cobalt vaut 500 000 dollars, une de cuivre environ 300 000 dollars. 72 millions de dollars sortent chaque jour de ce pays, le plus grand d'Afrique et l'un des plus pauvres au monde, par le seul poste frontière de Kasumbalesa. Les camions rangés en ligne serrée sous la lumière froide des projecteurs dessinent un immense labyrinthe. Des gamins vagabondent entre les froides carcasses, mains tendues vers le ciel, yeux levés vers les fenêtres des conducteurs. Ne va pas leur parler, ils ne nous lâcheront pas sinon. Nous déambulons, un peu perdus. Quand nous tombons sur Mr. Chance, il prépare le thé. « Alors les filles, vous êtes en retard pour le film !» De sa cabine, il a sorti trois chaises de camping. Sur une grosse caisse à outils, il a disposé des biscuits, un assortiment de café, thé, sucre blanc, sucre roux et un lecteur de DVD portable. Ce soir, c'est cinéma nigérian sous les étoiles.
To the company store.
Le lendemain, jour de départ, il manque une signature. Le surlendemain, le garde-barrière décide brutalement de fermer la frontière avec 2 heures d'avance. Le troisième jour pourrait être le bon, mais Andive reçoit ordre de s'arrêter. Un chauffeur de sa société s'est endormi au volant et a défoncé une maison. 5 personnes ont été tuées. Les villageois excédés ont vidé en 2 heures le chargement, 40 tonnes de cuivre, et juré de venger leur mort. La route est coupée. Il faut attendre que les esprits s'apaisent, que l'asphalte plonge dans l'obscurité. Himonga, un ancien collègue de Sandy V, philosophe. Les femmes sont bien meilleures que les hommes pour ce métier. Elles sont beaucoup plus patientes. Ce n'est pas une question de muscles, il faut savoir attendre. Assis sur un bout de trottoir, Imonga et Sandy V papotent. Lui aussi doit rejoindre la mine de Mutanda, son pire cauchemar. Immense et gras, Imonga déteste son métier. Il voulait être officier dans l'armée zambienne. « J'en ai marre !» hurle-t-il, bras au ciel. « Sortez-moi de là, je veux vivre, emmenez-moi, je veux rentrer chez moi !» Un petit bonhomme passe par là, une vieille balance si mince sous le bras. « Bonjour, cette balance du futur peut mesurer votre pourcentage d'eau, de graisse et de muscles et vous dire si vous faites le poids idéal pour votre taille. » Imonga le regarde, perplexe. Le bonhomme poursuit son argumentaire. « Regardez, c'est allemand, pour 1 000 francs, soit 0,80 €. Cette balance vous aide à surveiller votre bonne santé comme en Europe. » Un camion éthiopien crache un lourd nuage de fumée noire. On tousse. Imonga chasse le bonhomme. « Laisse tomber ma santé, mec. Je viens là de perdre 3 années de vie. » Kilomètre 3000 au Congo. Viande ! Tandy V pile d'un coup. Elle vient d'apercevoir 2 villageois en train de suspendre une antilope à une branche et bondit hors du camion. Quelle chance ! Elle est encore vivante. Elle se conservera. Fais pas cette tête. Dans la mine, on ne trouvera rien à manger. L'antilope, terrorisée, blessée à la patte, est balancée dans une caisse à l'arrière où se promènent déjà 4 poulets achetés en Zambie. La mine est à 400 kilomètres. La route disparaît sous les roues du camion. On distingue vaguement sur 10 mètres noyés sous la piste l'ancienne voie goudronnée de la Transafricaine. Terminée dans les années 60, elle reliait l'Afrique du Sud à l'Angola. Les rares camions qui y passaient pesaient 7 tonnes. Ils sont maintenant 200 à l'emprunter chaque jour et traînent jusqu'à 70 tonnes de chargement. Le goudron n'a pas supporté, les ponts non plus. Pour traverser un affluent du fleuve Congo, il faut embarquer sur un bac brinque-ballant. Il y a 2 semaines, un poids lourd est tombé, 20 tonnes d'acide se sont déversés dans le fleuve. C'était pas de chance, comme on dit. Une fois passée la ville de Likasi, après la grande forêt sans oiseaux, la route n'existe plus. Les pneus dérapent dans 30 cm de terre. Le camion tombe dans des trous invisibles. Les sacs volent dans la cabine, les œufs se brisent, les canettes de soda sont autant de projectiles qu'il faut esquiver. Tandy V s'agrippe au volant. Les coups viennent de partout. Le camion rampe à 5 km par heure. Il faut contourner les nombreux véhicules en panne ou renverser. Un bus local, couvert de matelas, de pneus, de bidons d'essence et de meubles, double, en soulevant un nuage de poussière. La terre s'engouffre dans la cabine. L'air est suffocant. Pour respirer, il faut porter un masque. L'antilope blessée halet. Tandy V s'arrête, attrape un long couteau et ouvre sa porte. La forêt est silencieuse. Elle égorge l'animal. Le sang s'écoule doucement sur la terre orange. «
Ce matin, l'aube est belle et trois oiseaux noirs traversent le ciel. Il reste 70 kilomètres, 8 heures de route. À chaque tour de roue, le camion claque et craque dans un bruit assourdissant. Sur la carte, la mine de Mutanda est toute proche. En plein cœur de la forêt, des milliers de squatteurs ont construit des baraques en plastique et en bois. Chassés par la guerre, ils sont arrivés ici avec leurs familles alors que les cours du cuivre et du cobalt ont envahi les écrans des traders de Wall Street. Ils travaillent à la mine où sont clandestins. Ils fouillent la terre malade de sa richesse. Leurs misères se fond dans la saleté. Quelques hôtels de simples cabanes couvertes de bâches oranges accueillent les acheteurs illégaux de minerais. Des dizaines d'adolescents à l'allure de fantômes poussent sur la route des vélos écrasés par le poids du charbon de bois qu'ils partent vendre. Noyés dans la poussière opaque, ils apparaissent au dernier moment. « Ne t'inquiète pas, Dieu est là », souffle Sandive. À l'orée de la forêt, trois soldats et une pancarte. « Péage devant !» Pour la route invisible, il faut payer 200 $ par camion. Kilomètre 3700, mine de Mutanda. Cela fait maintenant 6 jours que nous sommes bloqués à la mine dans notre bleu de travail et nos bottes en plastique. Il a fallu attendre pour décharger la chaux. Il faut attendre pour charger le cobalt. Le soleil frappe le sol. Il n'y a pas d'ombre, plus d'eau. Les gros containers de l'aire de stationnement sont vides. Le camion-citerne s'est brisé sur la route. C'était pas de chance. Il nous reste un poulet et un grand sac de maïs. La poussière des terrils s'immisce dans les moindres recoins. Les masques sont indispensables. Il n'y a pas de toilette. La forêt autour attend la prochaine saison des pluies pour propager le choléra. Une centaine de chauffeurs bivouaquent sur le parking de la mine. Mr. Chance, Mr. Justice et Imonga sont là. Mutanda, c'est pas pour les humains, disent-ils. Un blanc passe en 4x4, s'arrête. Il vient chercher Muzungu, la blanche. Je vous ai vu en passant. J'ai réfléchi, j'ai fait demi-tour. Vous ne pouvez pas rester là. Venez avec moi, vous prendrez une douche chaude et un bon repas. La blanche ne peut pas. Restez là. Tandive, elle, n'est pas invitée. Je la regarde. Vas-y, vas-y, tu verras l'autre côté, tu me raconteras demain, dit-elle en fourrant mes affaires dans un sac. Ramène-moi une bouteille de vin, j'aime bien le rouge. Le 4x4 passe la barrière, entre dans la citadelle dirigée par Anthony, un Belge né à Kolwezi. Le directeur est ravi d'avoir un peu de visite. Très décontracté, chaîne en or autour du cou et chemise fashionable, Anthony assure qu'il ne quitterait le bordel congolais pour rien au monde. Il est enthousiaste à l'idée de montrer sa mine, l'œuvre de sa vie, et de faire visiter le quartier des expatriés. Une salle de billard, une bibliothèque, une piscine, une ferme de crocodiles avec de fausses cascades et petites rivières décoratives. Il a fallu faire venir un spécialiste d'Afrique du Sud en avion, car les crocodiles étaient en train de mourir. Bientôt, il y aura un golfe à 5 trous. On ne s'occupe pas de nos gars, ils vont devenir fous. Derrière la colline, la Seine donne le vertige. La mine éventre la forêt. De gigantesques tractopelles labourent une carrière béante de 65 mètres de profondeur. Le gisement recèle un mélange de cuivre, fer, nickel, soufre et cobalt. Il est exploité depuis 5 ans. 25 ans d'extraction intense sur ces 3 km de long seront nécessaires pour l'épuiser. Anthony ramasse une pierre verte. Notre premier client est Apple. Ils ont besoin en grande quantité de ce cobalt, l'un des plus purs au monde, pour les batteries d'iPhone. Mutanda est la deuxième mine de Katanga. Des centaines de millions de dollars ont été investis. Les énormes sacs de minerais reposent, en tas, à perte de vue. Il doit y en avoir pour des millions. Des millions? Mais voyons, on se fait des milliards! S'exclame Anthony. Il faut faire vite, prendre tout ce qu'il y a à prendre. On est en Afrique. Demain, tout peut arriver. Il faut faire vite, prendre tout ce qu'il y a à prendre. On est en Afrique, demain tout peut arriver. Sandy Vey avait prononcé la même phrase sur la route. En ce milieu d'après-midi, elle doit être assise sur une natte en osier, posée entre deux camions. Elle cuisine sans doute, elle dit toujours que ça l'occupe. Je crois surtout qu'elle s'imagine le foyer qu'elle n'a jamais fondé. Les hommes, Mr. Chance, Mr. Justice et Imonga, sont probablement autour d'elle. Pour dîner, ils auront du ragoût de poulet ou du porridge de maïs. Ils doivent se plaindre de la chaleur et de la poussière. Je les entends encore dire que Mutanda est la pire des mines de la région, qu'on les traite comme des animaux, qu'ils ont perdu confiance dans l'Afrique en découvrant le Congo. Ils se disputeront pour savoir si c'est la faute des Blancs ou de leur gouvernement. Ils diront que l'homme est allé trop loin dans le malheur, que c'est trop tard, qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Imonga s'emportera en hurlant qu'il n'en peut plus de respirer cette merde qui le rend stérile, qu'il est encore jeune, qu'il n'a pas envie de mourir. Mr. Justice se plaindra de son mal de dos pour ne pas faire la vaisselle. Mr. Chance préparera un thé au lait en écoutant Céline Dion. Tandiwe fera chauffer de l'eau sale sur le butagaz parce qu'elle ne peut vraiment pas se laver à l'eau froide et ira lire la Bible sur sa couchette, seule, libre, à l'abri des regards. Mutanda, la mine. Cette mine, à 40 km de la ville de Kolwezi, au Katanga, République démocratique du Congo, est celle où se rend Tandy Vey avec son camion. Il ne s'agissait à l'origine que d'un petit projet d'extraction de cuivre. Originaire du Liban et installée à Lubumbashi, la famille Bazano tombe sur un immense gisement de cuivre et de cobalt. Dès 2005, avec des partenaires extérieurs, les premiers 850 millions de dollars nécessaires au projet sont investis. Aujourd'hui, la mine appartient à 80% au consortium Samref Congo, détenu pour moitié par la société suisse Glencore et également pour moitié par la famille Bazzano. Les 20% restants appartenaient au Congo-Kinshasa par l'intermédiaire de l'entreprise d'État, la GKMine, mais les parts ont été vendues début 2011 dans le plus grand secret. Le Fonds monétaire international, le fameux FMI, et des ONG comme Action contre l'impunité pour les droits humains soupçonnent la GKMine d'avoir bradé ses actions à la société Rovni Assets, une compagnie basée dans les îles Vierges britanniques, paradis fiscal des Antilles. L'homme clé de Rovni Assets s'appelle Dan Gertler. Il est le bras droit de l'actuel président congolais, Joseph Kabila, et le petit-fils du fondateur de la bourse israélienne du diamant, Moshe Schnitzer. Le deal de Mutanda n'a jamais été annoncé publiquement et ses partis refusent de dévoiler la somme à laquelle les parts ont été vendues. La BNP Paribas, en charge d'une estimation de la valeur de la mine de Mutanda, a refusé de donner au journal économique Bloomberg le montant de la transaction. C'est Bloomberg qui a révélé la transaction en juillet dernier. Oui, cet article date de 2012. Les vedettes de l'histoire ont quelque peu changé. Mutanda en chiffres. 30 camions en partent chaque jour avec un chargement de cuivre ou de cobalt. 110 000 tonnes de cuivre devraient être exportées de la mine selon la société Glencore dans le courant de l'année. 35 000 tonnes de cobalt sont actuellement exportées en Europe et Amérique du Nord selon les directeurs de Mutanda. 40 000 litres de gasoil sont consommés chaque jour dans la mine. 4 300 personnes travaillent à Mutanda. 10 dollars nets par jour, tel est le salaire des mineurs sous contrat, un peu plus que la moyenne nationale. 3 milliards 100 millions de dollars, c'est la valeur du projet de Mutanda Mine, selon un audit réalisé par Glencore. Le cuivre zambien est exploité dans le nord du pays depuis la colonisation britannique. À l'indépendance de l'ancienne Rhodésie du Nord, en 1964, le président socialiste Kenneth Kaunda décide de nationaliser les mines et développe un modèle social de santé et d'éducation inédit dans la région d'Afrique australe. À la fin des années 60, le premier âge d'or du cuivre, la région attire une importante classe moyenne. Les parents de Sandivé, ingénieurs des mines et infirmières, déménagent à Luanshya, à quelques kilomètres de Ndola. En 1973, la crise économique mondiale fait chuter les cours du métal rouge. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international obligent la Zambie à privatiser la compagnie minière d'État pour rembourser ses dettes. En 1986, des émeutes de la faim font 25 morts et des centaines de blessés. Le père de Sandivé perd son travail dans la mine en 2000 et le gouvernement, ruiné, ne verse plus de pension de retraite. À cette époque, Sandivé abandonne l'université pour devenir chauffeur routier. Jusqu'à l'arrivée des investisseurs chinois en 2008, la ceinture de cuivre zambienne est en déclin. Aujourd'hui, le commerce bilatéral avec la Chine représente 2,8 milliards de dollars. Les nouveaux investisseurs donnent un nouveau souffle à la région et le cours du cuivre, à 7 500 dollars la tonne, est 4 fois supérieur à son prix des années 60. De nombreuses manifestations anti-chinoises ont éclaté dès 2010 et Michael Sata, dit le candidat anti-chinois, a remporté les dernières élections le 23 septembre 2011. Lee Jones est le directeur général de l'entreprise MBS. Cette entreprise sud-africaine de transport routier est celle qui emploie Sandivé. Combien de chauffeurs a votre société ? La compagnie a été fondée en 1988. À l'époque, nous avions 5 camions. Aujourd'hui, nous avons 280 engins qui couvrent toute la région, de l'Afrique du Sud au Malawi, du Mozambique en RDC. Que transportez-vous au Congo-Kinshasa ? Au début des années 90, nous acheminions de la nourriture, de l'engrais et des semences. Vers 1998, c'était du maïs que les associations humanitaires distribuaient là-bas. Des trucs immangeables. Maintenant, c'est mine. Vous n'avez pas de chauffeur sud-africain ? Les Sud-Africains font les routes locales. Ils ne traversent pas les frontières. C'est sans doute dû à l'histoire. En effet, pendant l'apartheid, les Sud-Africains noirs n'avaient pas le droit de quitter le pays. Ils disent aussi que les droits du travail ne sont pas respectés. Nos chauffeurs sont assurés. S'ils subissent un accident du travail, ils sont couverts. Y a-t-il beaucoup de concurrence ? Combien de compagnies de transport compte la région de Johannesburg ? Nous avons des centaines de concurrents dans la région de Johannesburg. Et malheureusement, personne ne joue avec les mêmes règles. Certains font importer de vieux camions déglingués des États-Unis ou d'Asie. Ça ne leur coûte pas cher. Et il y a quelques livres dont je vous mettrai les références sur la page de podcast. Voilà, le voyage est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.
Don't get you, then the little one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.